Europe 1, en balade avec Sylvie Testu. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Sylvie Testu que nous partons en balade aujourd'hui. Sylvie Testu, c'est 80 films en 25 ans, elle a déjà écrit 5 livres, dont un révolutionnaire, il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir, on en parlera avec elle. Elle a reçu des prix à ne plus savoir où les mettre. Aujourd'hui, Sylvie Testu est à l'affiche du premier film en réalité virtuelle. Il s'intitule Fan Club. Il a été réalisé par Vincent Ravalec et elle nous a donné rendez-vous au musée Mayol.
Europe 1, 11h30, en balade avec Sylvie Testu. Frédéric Taddeï.
Bonjour Sylvie Testu.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Je vous retrouve au premier étage du musée Mayol, 59 rue de Grenelle, dans l'exposition consacrée à la collection d'Émile Burlet. Vous êtes devant les tableaux d'Auguste Renoir.
Voilà.
Vous en avez, vous aussi, chez vous ?
Mais bien sûr, on en a énormément. Non, alors d'abord, je voudrais parler du lieu, parce que c'est un lieu que j'aime bien, parce que c'est une maison.
Le musée Mayol.
Oui, le musée Mayol. C'est une maison avec son petit jardin, on a l'impression. Il n'y a pas ce côté lourd des musées.
Vous savez qu'Alfred de Musset habitait ici.
Il paraît.
Ouais.
Voilà, je ne l'ai jamais rencontré, bien entendu.
Non plus.
Mais voilà, on peut s'approcher hyper près. Il n'y a pas de...
Ce que vous aimez, c'est aller tout près du tableau, vous.
Près, loin, mais j'aime pas qu'on... Enfin, c'est pas que j'aime pas qu'on m'impose, mais je trouve qu'on est plus libre là, quoi. C'est plus petit, c'est plus confidentiel.
Il y a beaucoup, voilà. Beaucoup de monde, hein. Faut dire, c'est un musée très fréquenté, mais alors là, cette exposition attire énormément de gens.
Elle attire énormément de gens, j'ai jamais vu autant de monde
dans ce musée. C'est pour les impressionnistes, je pense, non ?
Ouais, voilà, c'est pour les noms, c'est pour Renoir, c'est pour la danse classique, c'est pour ces jeunes filles qui se remettent une fleur à leur chapeau. C'est printanier en même temps, non ?
Des danseuses d'Edgar Degas.
Voilà.
Vous avez fait de la danse, oui ?
Alors, j'en fais depuis longtemps. On peut dire que je ne suis pas douée, mais je m'accroche.
Degas adorait les danseuses. Il était abonné à l'opéra et ce qui lui donnait accès au foyer.
Mais c'est ça.
Mais à l'époque, c'était quasiment un bordel, l'opéra. Lui, il allait vraiment pour les dessiner.
Si on ne va pas tout en bas. Non, non, il y a des places où on peut accéder à l'opéra.
Non, non, je parle du bordel dans le sens où les petites danseuses étaient souvent des prostituées. Elles étaient très pauvres.
Oui, ça n'empêchait pas qu'elles étaient très souples. Mais non, mais il y a une élégance dans la danse classique notamment. Que moi j'adore et que je n'atteindrai jamais, mais c'est pas grave. C'est un rêve auquel je participe.
Il y en a une qui vous ressemble un peu là. Oh, c'est la source.
Ah, mais alors je vais la décrire parce que ça c'est merveilleux ce qu'il est en train de dire.
C'est
une femme voluptueuse.
Très blonde, avec
très
des longs
blonde
cheveux.
Avec de longs cheveux.
Des yeux bleus comme les vôtres.
Voilà, c'est ça, un visage très frais et un sourire et puis des yeux un peu. Comment on peut dire, elle est romantique.
Des yeux doux, oui.
Ouais.
Bon, elle est toute nue, elle est très rose.
Ah, bah j'aimerais bien. Ça me plairait énormément.
Souvent, les gens, quand ils vont au cinéma ou quand ils lisent des romans, s'identifient. Est-ce que vous vous identifiez aux portraits, aux femmes qui sont représentées dans les peintures que vous...
Oh, ça dépend lesquelles je regarde. Là, par exemple, c'est vrai que je ne m'identifie pas énormément, mais c'est un moment que j'aurais voulu passer. Voilà, c'est
ah
ça.
Oui,
dans la nature, avec un grand sourire. Elle fait ce qu'elle veut et surtout, elle a l'air sereine. Elle n'est pas stressée comme moi.
Voilà, j'allais vous dire, vous avez la réputation d'être très impatiente, de ne pas tenir en place. Est-ce que vous auriez supporté ce
non,
moment de volupté qu'elle a l'air d'avoir traversé ?
Des gens comme moi qui sont très stressés, très speed, quand on fait rien, moi je fais assez bien rien.
Ah oui ?
Oui.
Ça ne doit pas vous arriver souvent, vous tournez
non,
tout le temps.
Non, par moment, par petit moment, mais ça m'arrive. Non, non, j'ai des moments de calme où je deviens contemplative.
C'est vrai ?
Quand je me mets à faire rien, je fais rien. Oui, je le fais bien même.
Et quand vous êtes contemplative, vous contemplez quoi ?
La mer. Moi, j'ai une maison en bord d'Atlantique et j'aime beaucoup. Je regarde. Et à un moment, je prenais beaucoup de photos d'oiseaux.
Vous peignez un peu ?
Mal.
Mal ?
Très mal. Oui, je peins. Très mal. Autour de moi, tout le monde dit, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je pense que je leur fais peur. Ils n'osent pas me dire que c'est horrible.
Non, mais vous savez ce que c'est qu'une croûte ? La définition de la croûte, c'est que ça n'a de valeur qu'au sein de la famille.
Exactement. Non seulement je sais ce que c'est, mais je sais les faire. Voilà. Faut bien savoir quelque chose.
Et voilà, et ça a de la valeur sentimentale pour la famille.
Pour les autres. Voilà. Parce que moi, je les retourne. Et de temps en temps, je reviens dessus, je dis, ah, c'est dommage, j'aurais été plus douée, j'aurais poursuivi. Non, parce que je fais partie des gens qui pensent que en travaillant avec un peu de recul, on peut toujours arriver à faire quelque chose. Mais je ne travaille peut-être pas assez pour la peinture.
Vous croyez ?
Ouais.
Alors là, on va pas aller dans cette salle-là parce
non.
qu'il y a vraiment trop de monde.
Non. Ah, oh bah alors, cette petite. Et on en parle ou pas de cette petite statue qu'on adore ?
Ah ben bah voilà, la fameuse petite danseuse.
La fameuse petite danseuse quand même.
Avec le nœud dans les cheveux. La petite danseuse de 14 ans.
La petite danseuse de 14 ans qui est absolument mignonne, le nez en l'air et tout.
À l'époque, ça avait fait scandale. On avait trouvé qu'elle ressemblait à un petit singe. Et puis surtout, elle a un vrai petit jupon. Elle a... Ses vêtements sont vrais, son nœud est vrai. Et tout le monde avait trouvé ça épouvantable.
Et ben nous, on l'adore.
Ouais.
Vous voyez, là, on est tout près. Magnifique.
Oui, c'était un sacré sculpteur aussi, Degas.
Ah ouais.
Là, il y a des Fantin-Latour, des pêches.
Magnifique.
Là, il y a Messaline de Toulouse-Lautrec.
Ah ouais. Les collections privées comme ça, tellement grandes, tellement gigantesques, ben, je ne comprends pas.
Comprenez pas quoi ?
Qu'on ait une si grande collection à soi, mis à part de construire un patrimoine. Mais... on a envie de rester devant un tableau. Moi, j'ai du mal souvent, quand il y a trop de tableaux, même à traverser les espaces. S'il y en a un qui retient mon attention, deux, et les autres, non.
Bah, écoutez, on va partir alors.
Hein. Ouais, on va partir.
Vous avez votre dose. Et on va partir en balade avec Sylvie Testu.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sylvie Testu sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï visite le Paris de Sylvie Testu, qui en plus d'avoir un agenda chargé, change souvent de quartier.
Nous voilà avec Sylvie Testu sur le boulevard Raspail, où le prix moyen du mètre carré à l'achat, c'est 13 000 euros.
Voilà, Saint-Germain-des-Prices.
C'est votre quartier, hein ?
Bah, c'est devenu mon quartier, j'ai habité 10 ans le deuxième, et puis je déménage tout le temps. Alors là, ça fait bientôt 5 ans que je suis dans le quartier.
Et vous y plaisez ?
J'adore. Bah oui, il y a plein de petites boutiques, il y a des magasins de fringues, il y a des petits musées. Et je sais pas, je trouve que le quartier, il est à taille humaine.
Ouais. Juste en face, là, c'est l'immeuble où Alain Juppé avait son QG pour la primaire des Républicains.
C'est ça.
Qu'il a perdu.
Qu'il a perdu.
François Fillon, mais enfin, il était venu ici.
Voilà. François Fillon, ça lui a pas porté bonheur non plus, on peut le dire.
Voilà.
Donc ça n'est pas un immeuble qui porte bonheur à personne.
Quand vous avez quitté Lyon, votre ville natale, pour venir à Paris, c'était pour vous inscrire en fac d'histoire. Pourquoi l'histoire ?
Parce que c'est un peu général, j'avais pas envie de choisir. Moi, j'ai toujours fait ça, je voulais pas choisir. Donc je me suis tout le temps débrouillée pour faire quelque chose qui ne m'imposait pas de choix et qui faisait plaisir à mes parents.
Ah
c'est-à-dire
qu'il
fallait être bon en maths, et après ils vous laissaient tranquille. Ma mère en tout cas. Donc j'étais bonne en maths.
Et donc, étant bonne en maths, vous avez fait histoire.
Bah oui, de toute façon, on le sait. Hein. C'est moins vrai maintenant, mais... Enfin, il paraît que c'est moins vrai maintenant. Mais de toute façon, les maths, c'était ce qui permettait la sélection, quoi qu'il arrive. Il fallait être bon en maths, même pour être bon en français, donc c'était dingue.
Et alors, pourquoi actrice ? Vous vouliez vraiment être actrice ou c'était parce que vous ne saviez pas quoi choisir ?
Non, non, ça, j'avais envie depuis un moment. À Lyon même, j'avais pris quelques cours de théâtre. J'avais des amis qui faisaient du théâtre. J'allais au théâtre. Moi, je me suis abonnée, je devais avoir... Je ne sais pas, 12 ans au TNP, au Théâtre National Populaire de Lyon. Mais je ne sais pas, je ne le sentais pas de dire à mes parents « Oui, bah tiens, je vais faire comédienne. » Bon, le cinéma, j'y pensais même pas. Mais au moins de faire du théâtre,
c'est pour ça, en fait, que tous les enfants d'acteurs veulent être acteurs. C'est parce que les autres n'osent pas.
Et c'est possible.
Les seuls qui osent dire à leurs parents « Je vais être acteur. »
Mais déjà, c'est difficile de se sentir légitime. Ouais. C'est déjà difficile de se dire « Tiens, je vais représenter une partie, un film même. » Mais de ce qu'est un être humain, c'est quand même super bizarre.
Ouais, c'est ça le métier d'acteur pourtant. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Et c'est super bizarre de dire à des parents, notamment ma mère, moi qui élevais des gamines seules, bah, en fait, je vais faire un métier que tu ne connais absolument pas et que tu ne prends pas pour un métier. Ça me paraissait pas normal.
Elle était comptable, hein, votre mère.
Ouais, elle était comptable.
Un métier que les gens du cinéma ne prennent pas du tout au sérieux.
Pas du tout. Ils ont bien tort parce que souvent, ça les rappelle. En tout cas, ça a été mon cas plusieurs fois. Mais donc voilà, c'était quelque chose qui était sourd, je m'y intéressais, mais je ne me sentais pas du tout de partir là-dedans et de l'assumer en tout cas.
Et vous faites pour moi partie des anti-héroïnes. Beaucoup d'actrices apparues dans les années 90, comme vous, sont des anti-héroïnes. C'était très différent des actrices des générations précédentes, de Catherine Deneuve, de Fanny Ardant, de Brigitte Bardot. Vous étiez moins sublime. non, c'est vrai.
Ouais, j'entends.
Tout à coup, c'était des filles normales, quoi, qui ressemblaient.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on se connaît.
Aux filles qu'on connaissait.
Ouais, mais on se connaît même entre nous. Les contacts, les rapports ont été assez faciles. Je pense que je fais partie d'une génération d'actrices où on s'entend plutôt pas mal quand même.
Oui, il y a peut-être moins de rivalité.
Ouais. Et ça a fait une période de films un peu différents qui étaient. On était un peu la fille d'à côté, quoi.
Oui, la fille d'à côté.
Bon, alors maintenant, en prenant de l'âge, on est un peu la dame d'à côté. Mais on était un peu la fille d'à côté. Et d'ailleurs, on en rit, hein.
Ouais.
Oui, oui, on en rit. Il y a une des actrices, je ne vais pas la nommer. Mais parfois, on fait des dîners ensemble et elle dit « Salut les préliftés ».
Ça, c'est l'âge.
Voilà.
Mais vous pourriez rire.
Le même âge.
Vous pourriez rire de, je sais pas, quand on vous voit à Cannes, par exemple, vous avez toujours l'air tout un peu endimanché.
On l'est.
Alors que les actrices d'avant, on a l'impression qu'elles savaient s'habiller avant même de savoir
non.
jouer.
Alors, ça, c'était ce que disait. Ah non, mais ça, Karl Lagerfeld le disait ça. Et en fait, la différence, je pense que nous, on s'amuse à porter des robes. Et on se déguise, on a l'impression d'être subitement Cendrillon. Moi, j'adore ça. Hein. On nous prête les chaussures, les bijoux, les robes. Et en fait, on est différente d'autres actrices qui trouvaient qu'elles le méritaient. Voilà. Nous, on a reçu des Césars, on a dit « Oh, wow, super !» On a appelé nos parents, on a dit « T'as vu ?» Ils m'ont donné une statue dorée. Elles avaient bien joué. Alors, je ne sais pas. C'est une autre façon même d'investir... ce métier d'investir.
Mais de la même manière, le cinéma à cette époque-là, jusque dans les années 60-70, il était bigger than life.
Dans les années 70, je ne sais pas s'il était bigger than life.
En tout cas, dans les années 60, il était encore un peu bigger than life.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Dans les années Alors qu'aujourd'hui, c'est surtout le cinéma français, c'est la photocopie du réel, de la réalité.
Aujourd'hui, quoi. Maintenant.
Ouais.
Mais nous, quand on a déboulé, c'était malheureusement, c'était il y a 20 ans hein, maintenant. Mais,
c'est oui. une carrière de 25 ans, 80 films en 25 ans.
Purée. Ah ben bah voilà, c'est pour ça que je suis fatiguée. Je ne suis pas bien et je suis fatiguée. Mais non, aujourd'hui c'est vrai, moi je suis un peu d'accord avec vous. Aujourd'hui on est vraiment dans la fiction docu. C'est la rue qui se met à l'écran. Et en fait, moi quand j'étais là, on prenait des cas extrêmes. Par exemple, je vais faire référence à quelque chose qui était quand même tiré d'un fait divers, qui était les blessures assassines, où moi je jouais... une femme de ménage qui avait existé et qui avait assassiné ses patronnes avec le concours de sa sœur. Mais en fait, il avait étiré ça de façon très... On était très dans la psychologie. On n'était pas moins dans le fait divers que dans la psychologie. Aujourd'hui, on y est dans le fait divers.
Oui, maintenant, on copie le fait divers. On copie la vie des gens célèbres. On fait des biopics. Oui, on copie le réel, quoi.
Ouais, on est... Enfin, je pense que les... Là, aujourd'hui, les gens ont besoin de se reconnaître, de se retrouver, d'identifier. Alors, je ne sais pas si c'est... le cinéma qui emmène les gens à voir ça, ou si c'est les gens qui ont envie de voir ça, et donc le cinéma s'y plie, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai l'impression que faudrait romancer plus. De nouveau.
On arrive au Récamier, voilà. Bah, on s'y retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sylvie Testu sur Europe 1.
C'est dans le 7e arrondissement de Paris qu'on rejoint Frédéric Taddeï. On balade aujourd'hui avec la comédienne, romancière et réalisatrice Sylvie Testu.
Nous sommes au Récamier, 4 rue Récamier. Sylvie Testu vient d'allumer une cigarette. Vous fumez toujours autant alors hein ?
Malheureusement, oui.
Vous faites partie des gens qui n'essayent même pas d'arrêter.
Qui y pense ? C'est déjà pas mal.
Vous avez de la chance, en France, il n'y a pas que les méchants et les méchantes qui fument au cinéma.
Je sais.
Les gentils aussi.
Quoi que vous savez, on m'a appelé un jour pour me demander si je voulais jouer dans Kingsman.
Oui, le film avec...
Et pour faire qui ? La méchante.
La méchante.
Puisque Julianne Moore, son personnage, il n'a pas de feu, je le dénonce, je le dis. Donc, ah si, ça y est, il l'a trouvé. Et en fait, c'était donc pour la remplacer. J'étais ivre de bonheur. Bon, j'ai pas pu me rendre... à Londres, où il fallait rencontrer la production, la réalisation et tout ça, donc je ne l'ai pas fait. Mais j'étais hyper contente qu'on me le propose.
Enfin jouer une méchante.
Je me suis dit, sur une photo, ils m'ont trouvé tellement méchante que je pouvais remplacer Julianne Moore, elle est méchante dans Kingsman.
Ouais. Vous, ce qui est drôle, c'est qu'au début, et même pendant un certain temps, hein, les Français ne vous connaissaient pas et on vous prenait pour une actrice allemande.
Mais oui. Parce que je tournais en Allemagne.
Et vous avez débuté en Allemagne. En j'ai fait. Commencé Sauf en Allemagne. Sauf que vous cherchez au cours Florent, ils vous ont emmené en Allemagne.
Voilà, c'est ça. Alors je ne parlais pas l'allemand. Non, en fait, c'était une coprod. C'était une coproduction franco-allemande. Les Français se sont retirés du film au dernier moment et le réalisateur m'a gardé. Donc je me suis retrouvée actrice d'un film allemand. Mais c'était pas gênant, ça se passait pendant la période napoléonienne. C'était très à la mode de parler russe, français notamment, et un tout petit peu d'allemand. Donc j'avais une phrase d'allemand.
Mais après, pendant un certain temps, les Français croyaient que vous étiez allemande, puisque vous n'arrêtiez pas de tourner en Allemagne. Tel point que vous avez eu le César du meilleur espoir en France, 5 ans après avoir eu le Lola de la meilleure actrice en Allemagne.
C'est ça. Oui, eux, ils m'ont donné meilleure actrice, qui n'ont pas meilleur espoir. Ils n'espèrent rien. C'est le résultat direct. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des films allemands que j'avais fait allait sortir en France. Et en fait, ils avaient commencé à faire le doublage en français avec une autre actrice. Et c'est une des personnes en train de doubler qui dit, mais l'actrice qui joue, elle s'appelle Sylvie Testus, elle a l'air quand même super français. Ils ont cherché, ils m'ont trouvé. Ils avaient pris une française pour doubler une actrice française. C'est génial quand même.
On ne sait jamais quoi dire quand on reçoit un César. Vous auriez pu leur dire, au moment où vous avez reçu votre César du meilleur espoir, que vous aviez déjà eu le César de la meilleure actrice 5 ans avant.
Non, j'avais écrit ça dans un bouquin. En fait, il suffit qu'on vous appelle dans ce micro, à cette cérémonie des Césars, pour que plus rien, il n'y ait plus rien dans votre cerveau, plus rien dans votre tête. Moi, je suis quand même quelqu'un qui parle facilement, et les deux fois, quand on m'a appelé, je l'ai mal pris. Je me suis dit, oh putain! Ça fout les jetons et maintenant, en plus, il faut que je dise quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai rien à dire. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah, je remercie. Au moins, s'il y a une phrase d'accroche, tout le monde est content, tout le monde applaudit.
Mais vous savez que c'est un peu la même chose pour les animateurs. Quand vous êtes en direct, vous avez, moi, à mon avis, 5 ou 6 points de QI en moins.
C'est ça.
Vous êtes quand même, pour moi, une espèce d'actrice modèle, je vous l'avais dit. La preuve, c'est quand même la longue liste de prix que vous avez reçus. Hein, vous avez eu le film
Ou alors Bang, un cheval de course.
Le film Bang de la meilleure actrice en 96, c'était en Allemagne. Le Lola de la meilleure actrice en 97, en Allemagne, toujours. Puis le prix Michel Simon en 99, le prix Gérard Philippe en 2000, le César du meilleur espoir féminin en 2001, le César de la meilleure actrice en 2004, le prix Lumière de la meilleure actrice en 2004, le Globe de Cristal de la meilleure actrice en 2009, le prix de la meilleure actrice européenne en 2010, etc. etc.
À 22 ans, c'est pas mal, non?
Non, mais oui, vous êtes un peu la Meryl Streep française.
Je vous remercie. Je sais pas quoi dire, moi. Non, mais c'est super, je suis super contente.
Ne faites pas votre discours de remerciement comme si je venais de vous les redonner.
Bon, écoutez, je remercie vraiment ma mère qui ne voulait absolument pas que je fasse ce métier. Et, non, elle a flippé la pauvre. Mais non, je pense que c'est pas du tout un truc qu'on prend comme, comment dire, comme une bonne note. On le prend en se disant, c'est super, on me donne... un peu comme une clé à une boîte de nuit, quoi. On a le droit de rentrer dans la soirée, on a le droit, voilà.
Non, ce qui est drôle, c'est qu'on sait bien, pour avoir un César, faut pas être trop belle.
Ouais.
Faut pas être trop commercial.
Ouais.
Et faut pas être comique.
Ouais, ça c'est sûr.
Donc maintenant, vous savez ce que vous êtes.
Non, alors moi j'ai mieux que vous. Moi, j'avais dit, pour Carnaval, je l'avais pas eu. J'avais été nommée, je l'avais pas eu. Et pour les blessures
assassines... Carnaval, c'est votre premier film français.
Hein. Voilà, c'est ça. Et pour les blessures assassines, je me souviens, j'avais dit... Peut-être en tuant quelqu'un comme ça, être une criminelle, peut-être j'ai plus de chance. Et en japonais, c'était moi qui jouais le mieux, je le savais.
Ça, c'était dans Stupeur et tremblement d'Alain Corneau.
Donc voilà. Donc pour le César de la meilleure actrice, je savais. La perf, ça marche.
Et oui, c'est ça. Il faut être soit malade, soit très maquillé, avoir un...
Ouais, mais alors ça, c'est ce que je dis, moi, du conservatoire. C'est ce qui rassure un peu tout le monde. C'est-à-dire, au conservatoire, moi, je l'ai écrit dans un bouquin, je me souviens très bien d'une prof qui me dit un jour... Pour jouer Molière, tu vas avoir beaucoup de mal. T'es trop fine, trop musclée peut-être. J'étais trop sportive pour jouer Molière. Et c'est quand même... C'est super dérangeant. En fait, quand on est jeune, on n'a pas envie d'être triste. On n'a pas envie d'être en mauvaise santé. Et on a l'impression que pour entrer parfois dans un certain cercle, il faut être un peu déjà revenu. Des illusions, déjà revenus d'une énergie qu'on voudrait positive. Et il ne faut pas se casser la tête, ça vient. Ça va venir.
Sylvie Testu, vous vous appelez Sylvie, un prénom qui est devenu à la mode au milieu du 19e siècle, grâce à Gérard de Nerval, bien sûr, sa fameuse nouvelle Sylvie. Dans les années 60, c'était le prénom le plus porté par les filles. Sylvie Vartan, évidemment, on faisait la promotion chaque jour. Vous, vous arrivez un peu plus tard, en 71.
C'est un reproche qu'il faut faire à ma mère.
Hein. Oui, il y en a encore 10 000 à l'époque par an qui s'appellent Sylvie. Aujourd'hui, j'ai compté, il y en a eu 6 l'année dernière. C'est un prénom qui est un petit peu tombé.
Oui, mais alors les salons de coiffure, on a encore beaucoup. Dans toutes les provinces, il y a le salon Sylvie Coiffure. Voilà.
Et écoutons Sylvie, la chanson de Charles Aznavour. À l'époque, c'était le prénom numéro un quand Charles Aznavour a fait cette chanson.
C'est ça.
Sylvie, où sont tes plaisirs et tes rires d'enfant? Sylvie, où sont tes désirs de mordre avec le dent? La vie éveillant tes jeunes printemps, à l'aube de tes joies, tu pleures déjà. Pour un garçon insensé qui un jour, sans raison a brisé pour toujours, les espoirs de ton cœur plein d'amour, tu pleures. Si la vie, ce que l'on voit fuir ne se rattrape pas. Sylvie, armée d'un sourire, un inconnu viendra, ravi d'apporter des rêves en toi, par un nouveau bonheur au fond de ton cœur. Viens, car à l'âge d'aîné, le chagrin ne doit pas t'effleurer, car demain peut sombrer ton malheur, puisque rien ne demeure. À l'espoir pour recommencer. Sylvie, range ton mouchoir et repoudre ton nez. Souris, car la vie se traîne à tes pieds. Ne la repousse pas, tu regretteras. Quand tes années s'enfuiront, que le temps me donnera raison, tristement, tu te diras trop tard. Tu comprendras ce que tu as perdu. Sylvie, les jours d'autrefois ne se revivent plus. Aussi, ouvre ton cœur à l'inconnu, qui changera tes jours par un cri d'amour. Changera tes jours par un cri d'amour.
C'était Sylvie, chantée par Charles Aznavour. Ça vous correspond bien d'ailleurs cette chanson. Elle correspond à tout le monde. Hein. Tout le monde à un moment a été malheureux son amour, donc forcément.
Oui, oui, oui. Ça correspond à toutes les femmes qui ne veulent pas sortir quelque part d'une tristesse passée parce que on a l'impression qu'on est en vie quelque part et on vit plus fort. Et c'est un moment où on a du mal à l'admettre, mais dans lequel on est finalement pas si mal, je crois.
On va se rendre quelques pas d'ici, le très joli square au bout de l'impasse, au bout de la rue Récamier qui est une impasse. On va y retrouver une de vos amies. Hein.
Qui a un prénom pas plus moderne que le mien d'ailleurs, elle s'appelle Odile.
Vous ne le savez peut-être pas, mais Sylvie Testu aime la danse et elle a du coup invité pendant sa balade avec Frédéric Taddeï, une personne qui l'a beaucoup aidée à mieux connaître cette discipline.
Nous voilà dans le square Récamier, qu'on appelle à présent le square Roger Stéphane, qui existe depuis 1933 et qui est bien peu connu des Parisiens. Et vous avez donné rendez-vous ici à Odile Bastien.
C'est ça ?
Bonjour.
Pourquoi ce square et pourquoi Odile ?
Alors pourquoi ce square ? Parce que ce square, je l'ai découvert par hasard. Je dînais à la Cigale. Je devais lire quelque chose, on m'avait remis un manuscrit que je devais lire. La personne, elle est arrivée, je me suis dit, oh purée, je ne l'ai pas lu. Évidemment, en courant partout. J'ai tourné la tête, j'ai vu ici, j'ai vu un banc, j'ai dit, je vais
mettre
là.
Vous dîniez donc au Récamier, pas à la Cigale.
Le Récamier s'appelle aussi la Cigale. Et en fait, je suis venue là, j'ai lu mon truc et j'ai adoré cet endroit. Il n'y avait personne. Et là, de nouveau, il n'y a personne.
Il n'y a jamais personne à part Odile.
Et voilà, maintenant, on a donné rendez-vous à Odile, elle connaît l'endroit.
Et alors, Odile Bastien, moi, je la connais en tant que chorégraphe, mais vous la connaissez comment?
Alors. Moi, je suis assez fascinée par la danse, pour laquelle je suis assez peu douée, comme on se l'a dit tout à l'heure. Mais quand même, je m'entête. Il y a toujours des trucs comme ça, c'est comme la peinture. Et du coup, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'aider à avoir cette discipline qu'il y a dans la danse classique. Cette élégance, quoi. Parce que c'est pas que un sport.
Non.
Et j'ai cherché, je me suis renseignée. Julie Ferrier m'a parlé d'elle, plusieurs actrices m'ont parlé d'elle, danseuse. Et donc je suis allée à son cours.
Et vous êtes plus élégante maintenant.
Ah mais carrément, oui.
Mais bien sûr,
Frédéric,
enfin, vous devez bien pouvoir le voir. Tout à l'heure, vous m'avez comparé à une sorte de naïade. C'est pas pour rien.
C'était au musée.
C'est grâce à Odile Bastien.
Et alors, elle est douée pour l'élégance, j'entends. La danse, n'en parlons pas. Mais...
Non, vraiment.
Si, en boîte de nuit.
Non, faut que je dise quand même. Je l'ai vu arriver courageuse et tout, mais on va dire que j'ai vu arriver une Calamity Jane.
Rôle que vous avez tenu dans un film de James Whitt, Lucky Luke.
Et maintenant, on est plus proche de Ripley au niveau de la force et de l'endurance. Et maintenant, Lara Croft au niveau de la souplesse, j'avoue que là, on a franchi des paliers.
Il va falloir bientôt vous exporter parce que le cinéma français n'aime pas beaucoup les gens qui dansent et encore moins les gens qui font de l'action.
La Molière, c'est fini. Ah. Roman de Madeleine, c'est fini, on s'en va. Mais je pourrais toujours essayer du Pinter ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais. Mais non, moi j'aime bien, en vrai, la danse classique, j'ai fait quelques approches de temps en temps, ça fait plusieurs années que j'essaie d'y aller, j'ai jamais le temps réel ou pas l'envie, puisque j'arrive à venir...
Et puis il faut bien reconnaître que dans le cinéma français, on danse pas beaucoup.
Non, on danse pas beaucoup.
Non. Et dans les fêtes du cinéma français, on danse pas beaucoup non
plus.
Mais
je crois pas que c'est tellement utile, en fait, ce qui m'intéresse dans la danse, c'est justement autre chose que ces trucs d'actrices dont on parlait tout à l'heure, la génération à laquelle j'appartiens, moi, où on nous demandait de faire des photos, les épaules en dedans, les genoux en dedans, la tête qui penche, je l'ai hyper bien fait, maintenant je passais là, ça suffit.
C'était le style relâché.
À moi, hyper balèze en style relâché. Aucun effort. Et franchement, et du coup, j'ai fait beaucoup de photos dans ce genre-là. Maintenant, je vais voir Odile pour gommer tout ça.
Odile, vous avez remarqué que le cinéma français, ça incite pas tellement à danser.
C'est vrai. Mais on va y venir. En même temps, il y a danse et...
Même, on ne les voit pas danser dans les boîtes de nuit non plus. Ou alors, quand ils le font, on voit bien que c'est fou.
Voilà, c'est mal fait. Voilà, on est d'accord. Donc, ça, oui.
Non, à la décharge. Attention, je vais remettre les trucs. À la décharge des acteurs qui dansent dans tous les films, ou les téléfilms d'ailleurs, c'est que, comme on ne sait pas si on va avoir les droits de la chanson, on a toujours droit à une chanson, on danse dessus, le type coupe la musique, pour pas qu'on s'habitue trop au rythme. Ça fait des gens qui dansent sur rien, et d'un coup, on leur met une musique sur laquelle ils n'ont pas dansé. Donc tout le monde dit, mais regarde comme ils dansent. Eh oui, mais c'est pas du tout pareil de danser
mais alors,
sur...
Je voudrais pas vous faire de la peine, mais je suis allé à Cannes quelques fois, j'ai vu les fêtes.
Mais j'étais pas là.
Et personne...
Je vous ai jamais croisé dans les fêtes.
Les gens du cinéma français ne dansaient pas. Ils laissaient ça aux autres.
Non, mais ils avaient peur, c'est une sorte de...
Et pourtant, on leur enlevait pas la musique au milieu.
Mais parce que les Français ne boivent pas assez, peut-être. Ça ne les désigne pas suffisamment. Vous le savez bien, vous étiez dans les fêtes.
Oui, c'est sûr. Vous avez beaucoup d'actrices qui viennent chez vous,
Odile ? J'ai eu des filles d'actrices aussi, oui, et des actrices, oui. Oui, qui viennent chercher plutôt un maintien, une certaine discipline, une connaissance de leur corps, c'est toujours bien.
Voilà. Oui, et puis de pousser le mouvement jusqu'au bout.
Voilà.
Parce savoir que Odile, les marches.
Alors là, après mes cours, on monte les marches, mais alors, attention.
Attention. Moi, je pense que j'ai rajouté au moins 2 cm à mes talons, alors attention. Ah ouais. Mais non, il y a un truc de pousser le mouvement jusqu'au bout et de ne pas s'arrêter dans la danse. Et puis, il y a une rigueur dans la danse que parfois, dans le cinéma, on aime bien faire comme si on apprend la phrase jusqu'au bout. On fait le truc pas jusqu'au bout, ce qui est faux, en fait. Et dans la danse, il y a quelque chose... De toute façon, si on le fait pas jusqu'au bout, le mouvement sera moche. D'ailleurs, elle est là pour le dire.
Ça, je suis là, oui.
Non, moi, je suis arrivée...
Et dans les boîtes de nuit, vous trouvez que les gens dansent bien ?
Ça dépend. Quand on danse bien, en même temps, c'est quand ça vient d'une intention, d'un truc qu'on a dedans. Hein. Donc, il y a des gens qui dansent bien en boîte de nuit, c'est que, ils se lâchent. Et quand on se lâche sans réfléchir, sans se regarder, on danse bien, de toute façon.
Ah oui.
C'est quand on commence à se regarder, à se dire, oh là là, peut-être que je danse mal, peut-être que je suis pas bien, que du coup, ça sonne faux. Voilà, donc c'est...
Oui, les gens qui dansent bien sont souvent les gens qui déconnent un peu.
Oui, il faut être...
Relâché.
On dit souvent que les filles dansent naturellement mieux que les garçons. Vous êtes d'accord ?
Alors, ça dépend. Non, franchement, ça dépend. Non, il y a des garçons qui dansent très, très bien, justement. Mais ils ont plus de difficultés à se lâcher, parce que c'est moins dans les codes, garçons. Mais par contre, quand ils se lâchent et qu'ils sont aussi bons que les filles, il n'y a pas de... Non, j'ai les deux en cours pro, d'ailleurs.
Mais est-ce que les journalistes dansent bien ?
Ça m'étonnerait.
Ouais, moi aussi. Alors, à Cannes, moi, j'en ai rarement vu. Non,
j'en ai pas eu encore, je peux pas vous dire.
Oh, ça, je confirme.
Odile, je vais essayer de vous en rappeler.
Merci.
Non, je lui ai amené un homme un jour qui n'est autre que le père de mes enfants, qui est beaucoup plus souple que moi. Il a fait un cours, il est reparti, il était mort pendant une semaine.
C'est le but.
J'ai pas réussi à le garder.
Il m'a dit, oh, c'est super dur. J'ai dit, j'étais hyper fière.
J'ai pas réussi à le garder. Normalement, c'est une parole de secouriste dans les films.
C'est vrai.
C'est vrai. Bien qu'il est mort.
Ah ouais, non, je confirme, il était. C'était limite.
Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ?
Oui, on a eu une grande période de, bah, voilà, de séparation, sinon on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Mais oui, on se connaît depuis très longtemps.
Vous aviez quoi, 16 ans, non ?
Ouais.
Ah ouais.
Ouais. Il était pas bon en maths, moi, oui. Aujourd'hui, je dois quand même avouer que ça a bien changé.
Ben, on va continuer notre balade, Sylvie Testu. Merci, Odile Bastien.
Merci beaucoup.
Et dansez bien.
Merci. Oui,
non, bah, on merci, va continuer.
Merci. Et merci, Sylvie.
Et nous, on se voit bientôt.
Oui, à tout à fait.
J'y vais tout le temps.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sylvie Testu sur Europe 1.
On n'a pas tous le même regard sur les statues parisiennes et la suite de la balade de Frédéric Taddeï et Sylvie Testu va vous le prouver.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Sylvie Testu. Nous sommes rue de Sèvres et on s'approche du célèbre centaure de César. Fait quoi, 5 mètres de haut, 1 m50 de large. Et c'est une curiosité, vous savez pourquoi ? C'est parce que, regardez, il a d'énormes testicules.
Ah oui, il a d'énormes testicules.
Voilà. Et alors, quand on...
Ce que ma fille a vu immédiatement.
Et je me suis toujours dit, les gens qui ont des boutiques juste derrière, comme la Comtesse du Barry ou Swatch...
Mais ils aiment la poésie.
Non, mais ils voient les testicules du centaure de César toute la journée.
Elles sont exactement de la même taille, bien rondes. C'est très joli.
Vous avez écrit 5 livres, déjà, Sylvie Testu. Le premier était formidable... Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir, c'était quoi, en 2003 à peu près ? Vous aviez fait une petite révolution pour moi, puisque c'est la première fois qu'on racontait, en tout cas qu'une actrice racontait comme ça, ce qui se passait derrière, ce qu'on ne savait pas. Vous aviez fait un peu le même travail qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing en tant que président de la République quand il a publié Le pouvoir et la vie, où il racontait, il était le premier à raconter un peu ce qui se passait comme ça, dans les coulisses du pouvoir, raconter la petite histoire dans la grande histoire.
Ouais, c'est surtout comment on sent. Soit dans ce métier qui est plus artisanal qu'on veut bien l'imaginer, en fait, et qui est un métier où on voit toujours l'acteur, mais il est en fait le résultat de toute l'équipe. Oui. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la personne qui conduit l'acteur le matin, qui, ensuite il va au maquillage, il va à la coiffure, ensuite il y a l'équipe, la script, qui lui dit de faire quelque chose, le chef opérateur qui lui dit de s'asseoir là, le réalisateur qui lui demande de jouer comme ça, l'acteur en face qui sait ou ne sait pas son texte, et au final... C'est à lui de jouer. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive dans une certaine...
Oui, enfin, parfois, ça peut, on peut vous demander des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Vous racontiez comment
plus,
on essayait de vous persuader de sauter d'une fenêtre, par exemple. Et vous aviez dit non. Non, je vais me casser la jambe, non.
Oui, parce que je n'ai pas du tout l'étoffe des héros. Enfin, je l'admets. Il y a des gens qui sont très courageux, je le suis moins. Et j'avais peur. Je ne voulais pas sauter par cette fenêtre. Et puis, je trouvais que ça avait l'air dangereux. Enfin, voilà. Et je pense que ça... J'ai eu raison, puisque la cascadeuse qui l'a fait, à ma place, cette cascade, s'est cassée la jambe. Voilà, il faisait 13 degrés, elle portait une perruque, parce qu'elle avait les cheveux noirs, évidemment. Elle portait mes vêtements, et au moment où elle était dans la rue avec la jambe cassée, ça valait le coup d'être écrit, quoi. La costumière est arrivée en lui disant, je te reprends, la veste, c'est celle de Sylvie. Il n'y avait même pas encore les pompiers. J'ai dit, bah, dis donc, heureusement, je ne vais pas prêter mes sous-vêtements parce que ça serait retrouvé.
On les lui aurait arrachés.
Il lui a enlevé la perruque et ma veste. Énorme. Rend dingue, en fait, c'est ça. Mais c'est ça qui est magique aussi dans le cinéma. C'est qu'un bas filet, c'est rien. Sauf que s'il est raccord et que la nana n'en a plus, elle n'a pas de double, elle n'a pas de triple, un bas, ça se file, on peut enfiler deux dans la même journée. Subitement, ça prend. Des proportions qui sont dingues.
Mais dans tous les sens, je me souviens d'une scène qui était formidable. Vous racontiez comment il y avait un long travelling, vous marchiez sur une voie ferrée.
Ouais.
Et il fallait que vous trouviez le bon rythme pour... on sait qu'il y a des planches en bois sur la voie ferrée.
Ce sont des rails de train.
Et puis vous deviez bien marcher. Ne pas que ça se voie et que vous marchiez bien entre les rails. Et vous y arrivez. Et quand vous êtes en projection, ensuite, vous voyez le film. Et vous êtes super fiers de l'avoir si bien réussi. Vous regardez autour de vous, personne n'a remarqué. C'est ce travail énorme que vous aviez livré.
Ça me fait beaucoup rigoler parce que parfois, c'est cette mauvaise foi qu'on a où on dit « Putain, quand je pense que je me casse la tête à marcher entre serrailles, faut que je donne mon texte, il fait moins 2. On m'avait fait bouffer des glaçons parce que j'avais de la fumée qui me sortait par la bouche. Et j'ai voilà. Et maintenant, les gens, ils ne voient que la scène en disant que le mec, il a super bien écrit le texte.
Mais ce livre était formidable. Vous avez été vraiment la première, là. Vous en avez fait d'autres après.
Oui.
Vous avez raconté vos aventures en tant que réalisatrice.
Oui, et puis la trouille. J'en avais fait un sur. J'avais un appartement en haut d'un immeuble où il n'y avait pas d'habitants. Et j'avais ce que j'avais commencé à dire. J'ai dit. J'ai l'imagination qui joue contre moi, quoi, en fait. J'ai trop d'imagination. Ça rend dingue. Et voilà, et la nuit toute seule. Quand je dormais dans cet appartement, j'avais un chien à l'époque. Dès qu'il aboyait, j'avais l'impression qu'une armée de salopards était en train de casser mes fenêtres.
En fait, c'est la trouille qui a commandé votre vie, visiblement.
Oh ben,
en tout cas, qui vous donne envie d'écrire des livres.
Bah, en fait, ça met tous les sens en alerte, ça c'est vrai. Donc, c'est ce qui fait que ça permet de délirer un peu plus rapidement.
Vous en avez fait un autre qui était très très drôle. Vous racontez comment le deuxième film que vous alliez réaliser a été annulé 15 jours avant le tournage.
Avec les Ceausescu.
Ça, c'était le couple de producteurs. Donc vous faisiez
voilà,
le portrait.
C'est ça.
Bah,
parce que c'est tellement un métier où on espère qu'on va y arriver. C'est pas un métier où on peut vraiment décider. C'est pas comme écrire un livre, écrire un scénario. On n'est pas seul. D'ailleurs, de faire un film. On ne devrait pas dire un film de, mais un film de, et on devrait mettre toute l'équipe. Parce que quand vous êtes au scénario...
Il y a une règle du cinéma d'auteur en France, on va être l'auteur.
Ouais, mais
c'est pour ça qu'on est le réalisateur, le scénariste.
Ouais, mais quand vous êtes le scénariste, il y a les financiers qui vous disent « Ah là, ça va pas comme ci, là, ça va pas comme ça. » De toute façon, sans argent, vous ne ferez pas votre film. Donc vous êtes obligé un peu quand même, malgré tout, de le changer. Ensuite, sur le plateau, quand vous arrivez, vous avez passé toutes les étapes. Hein, je fais un jump. Il y a un acteur qui dit « Ah, cette phrase, je la sens pas. » Et là, on se dit, mais pourquoi en fait ? Pourquoi je n'écris pas un bouquin ? C'est plus simple. Et donc, je me suis amusée avec ça dans le... C'est mon dernier livre, d'ailleurs, dans ce livre. Et ça a fait marrer tout le monde, parce que je pense que surtout, ce que ça racontait, c'est que... Ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on attend quelque chose de vous, il y a beaucoup de chances pour qu'on le foire, quoi.
Nous sommes place Saint-Sulpice, il y a l'église Saint-Sulpice à notre droite, il y a beaucoup de magasins d'objets pieux, mais aussi beaucoup de magasins de vêtements.
C'est le chocolat. C'est
le quartier latin d'aujourd'hui.
Ouais, non, il existe encore le quartier latin, non
c'est, au moins dans la chanson de Charles Trenet qu'on va écouter tout de suite.
Quartier latin, chez toi rien n'a changé. Quartier latin, toujours aussi léger. Quartier latin, pays de mes folles amours. Quartier latin, où j'ai connu mes meilleurs jours. J'ai retrouvé ma chambre sous les toits dont je rêvais. J'étais heureux là-bas. Car je vivais en amoureux, sans souci du lendemain. Quartier latin, quartier latin. J'ai retrouvé ma chambre sous les toits dont je rêvais. J'étais heureux là-bas, car je vivais un amoureux, sans souci du lendemain. Quartier latin, quartier latin.
C'était Quartier latin, chanté par Charles Trenet. Il y a des embouteillages dans la rue Saint-Sulpice. On continue notre balade avec Sylvie Testu.
Comme chaque dimanche, Frédéric Taddeï part en balade avec un ou une invitée. Et aujourd'hui, c'est Sylvie Testu qui a répondu à son invitation. Et vous allez entendre qu'ils croisent du beau monde tous les deux.
Nous sommes toujours rue Saint-Sulpice avec Sylvie Testu. On arrive devant le numéro 36. Le numéro est doré sur fond bleu. Vous savez pourquoi ?
Non.
C'est parce que ça, c'était imposé par la police à l'époque. Ça voulait dire que c'était une maison close.
Ah, on y revient.
Et oui.
Et on est presque à l'opéra.
Et voilà. Et comme on est à côté de l'église Saint-Sulpice, c'est une maison close spécialisée pour la clientèle ecclésiastique.
Quelle merveille. Je passerai plus jamais devant sans y penser.
J'espère bien.
Je vais l'enseigner à mes enfants. Je pense que ça va les intéresser.
C'est historique. Vous pouvez. Vous venez souvent dans la rue Saint-Sulpice. Vous avez fait des courses.
Ouais, je viens. C'est là que j'habite.
Là, vous embrassez même quelqu'un, d'ailleurs.
Très bien, toi.
Bonjour. Ah, ben, c'est Marion Cotillard, je ne l'avais pas reconnu.
Super.
Ça va ?
Qu'est-ce que vous faites ?
On va s'acheter des chaussettes.
Ah, d'accord. Ah, des chaussettes japonaises.
Voilà, exactement.
Très bien.
Et vous faites de la trottinette ? C'est les nouvelles, non ?
Je fais de la trottinette. Non, c'est la mienne.
Ah, c'est pour ça.
Voilà. Ouais.
Je crois que c'était les nouvelles de la ville de Paris.
Bah, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui terminent dans la Seine avec ces grosses batteries. C'est quand même vraiment dommage.
Et vous faites de la plongée, vous les remontez ?
Alors non, du coup, on m'a offert une trottinette électrique. J'ai vraiment l'air con, on va pas se mentir. Si. Mais c'est tellement pratique.
C'est pour ça que vous préférez marcher à côté plutôt que de rouler
non,
dessus.
Non, c'est parce que je suis avec ma fille et que du coup, je suis sympa.
Et qu'elle est sur le trottoir et qu'elle respecte les règles.
Bonne journée, Marion.
Salut.
Donc c'est un magasin de chaussettes qu'elle connaît.
Ah oui, donc c'est ce magasin de chaussettes, c'est Tabio.
Voilà, exactement.
Fabrication artisanale japonaise. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de chaussettes en vitrine, mais aussi à l'intérieur. Mais vous achetez souvent des chaussettes ?
Ici ?
Ouais.
Tout le temps. Enfin, pour l'hiver, c'est mieux, sinon j'ai froid aux pieds. Ouais.
Bah, rentrons. Donc ce sont des chaussettes japonaises, des chaussettes artisanales, mais qu'est-ce que ce magasin a de particulier ?
Vous voyez, ce sont des chaussettes qui deviennent subitement un accessoire de mode. Ce ne sont pas seulement...
Très beaux imprimés.
Ouais, voilà, ce ne sont pas seulement des chaussettes pour avoir chaud aux pieds, quoi. C'est en plus joli quand on retire ses chaussures, on est content. Et je trouve que pour les filles, c'est funky, quoi, c'est drôle. Il y a un côté Cyndi Lauper dans leur...
Mais je vous regarde et vous avez les pieds nus dans vos chaussures.
Oui, parce que là, c'est le printemps. et puis là, j'ai mis des mocassins, quoi. Alors, pieds nus, c'est plutôt pas mal aussi. Mais je pourrais tout à fait mettre des petites chaussettes qui sont... alors, je ne sais pas en quoi, il faudrait que je lui demande, mais qui sont ajourées, qui sont jaunes, avec...
Avec des petites paillettes, on dirait presque des paillettes. Et puis, on peut faire broder son nom aussi.
Ah, alors, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert le magasin. J'étais venue m'acheter des chaussettes et j'ai vu qu'on pouvait se faire graver ses initiales. Et comme moi, j'ai des enfants qui ont commencé à avoir la même taille que moi et que j'en avais marre d'avoir mes chaussettes qui étaient trouées, je fais graver mes initiales dessus. Je trouve ça hyper chic.
Et ça empêche vos enfants de vous les piquer.
Bien sûr, c'est écrit mon prénom. Ah oui. C'est écrit mes initiales S. Il ne s'appelle pas du tout Sylvie.
Et ils respectent ça.
Ah bah oui, respect immense. Et d'ailleurs, ils m'en ont demandé. Donc je leur en offre de temps en temps.
Donc maintenant, tout le monde a des chaussettes Tabio dans votre famille, brodées à son nom.
Bientôt, on aura des armoiries.
Autrefois, on brodait ses chemises à son nom. Vous brodez
les
chaussettes.
Ah non, là, c'est trop ostentatoire. On fait les chaussettes, nous. Ça ne se voit pas, il n'y a que nous qui le savons. Maintenant, tous vos auditeurs.
Le problème, c'est qu'ici, les chaussettes à ma taille ont beaucoup de succès. Il n'y a plus que des tailles trop larges pour moi.
Oui, n'empêche que vous avez craqué, elles sont très belles. Ouais. Et on va faire broder vos chaussettes. Il a trouvé donc des chaussettes bleu marine à petits pois rouges, je trouve très élégantes, et d'autres avec des petites fleurs très mignonnes.
Très bien, mais je me passerai de... Alors on appelle ça une brodée, pas gravée.
Non, on va continuer de se balader. Quand on aura fini, vous viendrez les chercher. Vous allez lui broder, non ? Ah non, ça, vous serez content tout le temps. Chaque fois que vous mettrez vos chaussettes, vous penserez à moi.
Eh bien, on va quitter le magasin Tabio et on se retrouve juste après les infos avec Sylvie Testu.
De la mi-journée, c'est avec vous Fabienne Lemoyle, bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons sur ce nouveau coup dur pour la droite, des élus, principalement des maires, qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron. Ils sont 72, emmenés par le maire d'Angers, qui a quitté les Républicains depuis 2017, a signé une tribune dans les colonnes du journal du dimanche. Une tribune intitulée « La République des maires et des élus locaux ». Nous verrons avec Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 ce qui se cache derrière cette tribune. Vous entendrez aussi la réaction de l'eurodéputée Les Républicains Nadine Morano. Elle parle de désertion mais minimise ce soutien en parlant du faible nombre d'élus concernés au regard des effectifs dont la droite dispose, dit-elle. Elle était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Et puis avec le démographe Hervé Lebras, grand spécialiste de la sociologie électorale, nous analyserons cette crise chez les Républicains à la lumière du vote des européennes. Va-t-on vers un nouveau bras de fer entre Londres et Bruxelles à propos du Brexit? En tout cas, Boris Johnson, qui est le grand favori pour succéder à Theresa May, dit clairement ce matin dans la presse anglaise que non, il ne paiera pas la note si les 27 n'acceptent pas de renégocier. Toujours dans le journal de la mi-journée, première marche des fiertés en banlieue cet après-midi à Saint-Denis. Les 10 km de Paris, nous serons sur la ligne d'arrivée aux Invalides avec des auditeurs du club Europe 1 qui ont été coachés par Jean-Claude Perrin. Le journal des sports avec des Bleus qui rient, ce sont les filles qui étaient au contact de leurs supporters ce matin sur la Côte d'Azur, et des Bleus qui pleurent, ce sont les garçons battus par la Turquie 2-0 en match de qualification pour l'Euro hier soir à Konya. Enfin, la météo, attention aux orages, ils arrivent par l'Est et ils seront localement forts de la Lozère à la Haute-Savoie, nous dit Valérie Darmon. Côté température, c'est le grand écart, gros contraste entre Saint-Brieuc, 14 degrés, et Ajaccio en Corse, 32 degrés.
Merci Fabienne. On continue à se balader avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. Il est midi, bon week-end.
Europe 1, en balade avec Sylvie Testu. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Sylvie Testu. 80 films au compteur en 25 ans. Lesquels resteront, à votre avis, selon vos goûts à vous?
Ah, moi, je garderais volontiers Stupeur et Tremblement, parce que franchement...
Le film d'Alain Corneau, d'après le roman d'Amélie Nothomb.
Voilà. Et certainement Sagan.
Vous avez joué Françoise Sagan.
Voilà. Je pense que ces deux-là, je suis assez contente parce qu'en fait, ce sont des films, j'avais peur de me planter. Il y avait un projet, en fait. On sait où on va. Quand on sait où on va, ça fait peur. C'est compliqué. S'il y a un objectif, et moi, je n'aime pas avoir un objectif précis. Ce sont des films qui m'ont fait me poser des questions où à des moments, il a été question presque que je ne le fasse pas.
À tel point.
Mais oui, parce que c'est presque, on a l'impression que c'est presque vain. On peut pas être aussi sincère que la personne qui a vécu. Donc on se dit, bon, alors, comment ça va se passer? Il faut accepter de ne pas lutter contre. C'est comme quand un jour j'avais fait un opéra, un oratorio. Et c'était Jeannot Buchet. Et je me battais contre la musique au départ. Et en fait, il ne faut pas. Plus on se bat, et plus on va rater. Mais c'est un réflexe qu'on a au départ. Et on aborde la chose en ayant un peu les jetons. Et donc, du coup, on est en protection. Une fois que ça passe, c'est une merveille.
Et vos pires films, ce seraient lesquels? Sur les 80?
Il y en a quelques-uns, mais je les oublie, on va dire ça comme ça.
Ah, attention, vous ne faites pas renverser par la police.
Ah ben non, ils nous laissent passer. Merci. Ils n'avaient pas l'air hyper précieux non plus. On peut dire ça comme ça.
Oui, il y a des films quand même qui étaient particulièrement mauvais ou...
Non, le malheur, c'est pas quand ils sortent, c'est de les tourner, parce que quand ils sont mauvais, on le sait dans les deux premiers jours.
Ouais.
C'est immédiat. Et là, on se dit, waouh, il me reste combien de temps? Ah, 5 semaines.
Et vous n'êtes jamais arrivé de croire que ça allait être mauvais, puis que ça se révèle très très bon?
Non. L'inverse,
Belmondo,
oui.
Par exemple, je croyais qu'elle à bout de souffle, ça sortirait jamais tellement c'était mauvais. Et finalement, ça l'a rendu célèbre. Voyez.
Oui, mais c'est parce que c'est une façon de filmer pendant la nouvelle vague où c'était compliqué. Les films que moi j'ai fait que j'estime pas bons, c'était des films quand même qui étaient, comme on se l'a dit tout à l'heure, assez proches d'une vérité sociale, assez. Et on le sent tout de suite si on s'identifie à la problématique, au personnage, à ce qu'il traverse. Et quand on ne croit à rien, on n'investit pas l'ambiance.
Et vos films qui ont le mieux marché?
Oh bah c'est bah par exemple Lucky Luke, un des films de James Hutt, sont des
avec
films
Jean
qui
Dujardin.
Sont avec Jean Dujardin. Par exemple Tamara sont des comédies parce que les gens ont envie de de comédie. François Sagan a bien marché. Les visiteurs.
Enfin, non, c'était visiteurs. Plutôt un échec, les visiteurs.
Pour eux, c'est un échec. Ouais. Pour moi, c'est énorme parce que moi, j'ai rarement fait des films qui dépassent le million, quoi. Donc moi, à partir du moment où on fait 1,9 million, j'ai l'impression que j'ai la baraka, quoi.
Mais pour les visiteurs qui avaient fait 12, 15 millions, c'est ça. C'était pas terrible.
Pour eux, c'était une catastrophe. Pour moi, c'était un enchantement. Tout dépend d'où on se place. Et puis, Jean-Marie Poiret, je l'adore. C'est un punk, il est formidable. C'est un type qui a l'âge qu'il a. En fait, il est resté bloqué à 17 ans, quoi.
Oui. Et votre film le plus sexy, alors ?
Je pense que c'était le film de Gérard Kravzik. J'étais enceinte de 5 mois, alors j'étais bien plus voluptueuse. Et je jouais une amoureuse de Eric Cantona. Oh, alors ça, c'était sexy.
Sexy. Et votre film le plus intelligent ?
Oh, ça doit certainement être chez Chantal Akerman. Une adaptation de Proust. Je ne sais pas si c'est le plus intelligent, mais ça a l'air.
On arrive à l'Odéon. Il y a donc beaucoup de bruit, beaucoup de voitures. On va traverser ici. Ah, vous avez donné rendez-vous à... Il y a tous vos amis sur le
c'est
parcours.
C'est ça qui est bien.
Hein. Incroyable.
Comment ça va ?
Mais quelle surprise, n'est-ce pas ?
Alors, c'est James Hutt.
C'est James Hutt. Bonjour, James. Non, je sais que vous lui aviez donné rendez-vous devant le cinéma MK2. Boulevard Saint-Germain.
Mais c'est bien parce que James le voit tout le temps quand il fait beau. Et même maintenant qu'il ne fait pas beau, j'ai l'impression qu'il fait soleil. Il s'était bronzé en plus.
C'est parce que je passe mes journées avec toi, Sylvie.
Alors, James Hutt, je le présente pour nos auditeurs, c'est le réalisateur de Brise de Nice, c'est le réalisateur de Lucky Luke, dans lequel vous jouiez Calamity Jane, aux côtés de Jean Dujardin. C'est un ancien chirurgien-dentiste, hein, je crois.
Vous savez tout, Frédéric, je peux rien vous cacher.
Et ça vous a servi dans votre carrière de cinéaste d'avoir été chirurgien-dentiste ?
Oui, parce que personne n'est jamais malade sur mes films.
Oh, c'est vrai.
Donc, je fais toujours attention à mes équipes et à mes acteurs.
On se retrouve juste après une pause avec James Hutt et Sylvie Testu.
Frédéric Taddeï en balade avec Sylvie Testu sur Europe 1.
Frédéric Taddeï est en balade avec Sylvie Testu jusqu'à 12h30 et ils ont été rejoints par un réalisateur dont la comédienne est très proche, dû à plusieurs projets, dont un qui va bientôt sortir.
Nous voilà assis sur un banc avec Sylvie Testu et James Hutt qui est en train d'ouvrir le cadeau que oui. Sylvie Testu lui a rapporté.
Quelle chance !
Il y a écrit Paris, New York. C'était, vous l'avez ramené de New York ?
Pas du tout.
Vous êtes tout le temps en tournage lointain.
Sylvie, t'es un génie.
Visiblement, le cadeau lui plaît.
C'est une joke entre nous.
On a des private jokes.
C'est avec une petite Ferrari miniature.
Absolument.
Il en rêve.
Moi, j'en aurais pleuré si je n'avais eu que la version miniature. Visiblement, lui, ça lui fait plaisir.
Oui. Il va la mettre devant sa télévision, ça fera magnifique.
Il faut dire que vous avez passé beaucoup de temps récemment ensemble, puisque vous venez de tourner Rendez-vous chez les Malawas, ça s'appelle toujours comme ça ?
Absolument.
C'est un film avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzi Bedia et Sylvie Testu. C'est une parodie de Rendez-vous en Terre Inconnue, l'émission de Frédéric Lopez.
Disons que c'est une parodie des émissions où on emmène des gens au bout du monde. Et là, effectivement, c'est l'histoire d'un présentateur qui a la mauvaise idée pour la spéciale Noël d'emmener non pas un invité, mais 4 invités dans la tribu des Malawas, qui est la seule tribu à qui on a foutu la paix jusqu'à maintenant en Afrique. Et ça se passe très, très mal.
Pour moi, c'est un des meilleurs concepts de télévision des années 2000. Il n'y en a pas eu beaucoup. Vous l'aviez faite, cette émission ?
Oui, oui, je l'ai faite. Moi, je suis partie au Tchad.
Ouais. Chez les quoi, vous ?
Les Goran.
Ah oui. Est-ce que la parodie qu'on a fait James Hutt et Michael Youn, hein, je crois qu'il a coécrit le scénario avec vous,
absolument,
Michael.
Avec Sonia Chilito.
Est-ce que ça vous paraît une parodie honnête ou est-ce qu'on se...
Ah, il y a des choses, c'est ce que je disais à James, on ne s'était pas parlé avant, hein. Ils ont écrit le scénario, et j'ai dit, mais il y a des trucs, je l'ai dit, moi. Parce que par moment, en fait, d'être filmé comme ça tout le temps, on a l'impression qu'il faut dire des choses. Comme là, maintenant, je dois avoir certainement dit plein de conneries, n'est-ce pas ?
Non,
et,
non.
J'écouterai. Et en fait, ça arrive de dire, oh là là, on se sent vraiment dans le berceau du monde. Ah, bah tiens, si je ne l'avais pas sortie, celle-ci, il fallait qu'un écrivain la sorte.
C'est vrai que c'est une émission formidable et très inspirante. Et ça a été pour nous ces émissions-là un support pour pouvoir faire un film finalement sur les célébrités, sur l'ego. Ça faisait longtemps que je voulais traiter du thème de l'ego au cinéma.
Là, ils partent en n'ayant aucune idée de ce qui les attend. Et ils ne sont pas du tout prêts à faire des efforts, on peut dire ça comme ça. Enfin, ils pensent qu'ils en font.
Oui, c'est
ça. Ils pensent qu'ils en font.
C'est surtout qu'est-ce qui se passe après couper, quoi. Voilà.
C'est quel genre d'actrice, Sylvie Testu, pour vous? Vous commencez à la connaître, hein. Vous avez tourné plusieurs fois avec elle.
Je vais vous dire, on est parti avec 7 acteurs, une actrice, et la plus roots de tous et la plus transportable, exportable, c'est bien Sylvie.
La seule qui n'a pas arrêté de fumer, c'est moi.
C'est vrai qu'elle nous a tous, elle nous a tous battus avec son énergie, son enthousiasme, son intelligence sur le plateau et en dehors du plateau, quoi. C'est ce qu'il y a de fou avec Sylvie, c'est que en plus d'être une actrice que vous connaissez et qu'on peut louer,
bardée de prix, on peut dire.
C'est un être humain hors pair. C'est-à-dire, on rencontre Sylvie, on a envie de vivre avec elle.
Elle n'a jamais soif.
T'as l'impression que c'est ta meilleure amie à la première seconde, quoi.
Oui, c'est vrai, j'ai un peu cette impression, moi aussi. Là, ça fait quoi, une heure et quart qu'on est ensemble, genre. J'ai l'impression qu'on se connaît
depuis
toujours.
On a déjà vu les qualités et les défauts. Et donc, c'est merveilleux.
Quand on vous suit sur Twitter, comme c'est mon cas, on n'arrête pas de vous voir aux quatre coins la planète. Là, vous étiez en Afrique du Sud il n'y a encore pas longtemps, à New York, je crois, à Madrid, à Cuba. Vous n'arrêtez pas de voyager.
Voilà, mais je tweete peu hein, quand même, malgré tout.
Et il vous est arrivé une aventure récemment. Vous la suivez sur Twitter, James?
Je la suis sur Twitter, absolument.
Et là, vous êtes arrivé un truc dans un magasin et depuis, il y a des centaines, des milliers de gens qui tweetent.
Qui commentent.
Oui. Vous pouvez raconter pour tous ceux qui ont eu la chance de ne pas être sur Twitter.
Mais j'étais hallucinée parce que parfois on tweet, on a des grandes idées, des choses comme ça. Puis bon, on a 3-4 personnes qui répondent, on se dit bon, voilà. Et là, j'étais agacée parce que je vais faire mes courses, voilà, comme tout le monde. Et puis un type qui arrive vers moi et qui me félicite en me disant oh là là, vraiment, je voulais vous féliciter de faire vos courses toute seule.
Vous-même.
Voilà, moi-même. Alors je me dis, ah bah c'est curieux. Et il dit, bah oui, à votre âge, il n'y en a plus beaucoup. J'ai cru que j'allais le démolir. J'avais envie de jeter. Je m'achetais de la lessive, le bidon. Le jeter par terre et me casser au courant.
Et depuis, les gens se sont indignés en masse.
Ah oui. Quel connard, mais pas du tout. Vous avez l'air d'avoir 10 ans de moins. Mais savez-vous quel âge j'ai?
Tu sais quel âge tu as? On a eu cette discussion.
Je sais quel âge
tu
j'ai.
Tu m'as dit que tu aurais toujours 12 ans.
Oui, voilà.
Tu te souviens?
Non, parce que je lui ai raconté une chose. Moi, je suis persuadée qu'on a le même âge pour toujours. On est bloqué à un âge. Lui, ça se voit, il a 9 ans.
Ouais.
Et moi, j'ai quel âge, moi?
Vous êtes ado, un peu.
Oh, pas
un
du
ado.
Tout.
Ouais, oui.
Non, mais j'ai pas du tout envie d'être un ado. C'est la mode. Moi, je veux être un homme.
Mais on n'a pas le choix.
Ah oui?
Non, on n'a pas le choix.
Ça se voit. Ça se voit, Fred, que... t'es 13 max. Moi, j'ai un fils, il a 67 depuis qu'il est né.
Ouais, voilà, il fait partie du quartier latin, il est là avec ses... Mais ouais, c'est comme ça.
Non, pas du tout, tu as gardé...
On n'a pas le choix.
Rêve. Regarde, ça se voit dans tes yeux.
Kassovitz aussi, les jeunes, il a 9 ans aussi. Même s'il fait des concours de boxe, des trucs comme ça, il a 9 ans. C'est comme ça.
Pourquoi vous avez laissé tomber, chirurgien dentiste? C'était bien.
C'est vachement mieux, les actrices.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'était pas
parce
gagné.
Que, parce que j'ai réalisé qu'on... Je me suis rendu compte plutôt qu'on ne vivait qu'une fois.
Et qui préférait les Ferrari en miniature?
Et que finalement, exactement. Que je préférais les Ferrari miniature que les vrais. Exactement.
Et pouvoir faire des jolies choses à de jolies femmes.
Exactement.
La définition que François Truffaut donnait du métier de réalisateur.
C'est une belle définition.
On va vous laisser là parce que j'ai le téléphone qui sonne, James.
C'est le vôtre, c'est ça.
Et merci de nous avoir rejoints.
Eh ben, c'est un plaisir.
Sur notre parcours.
C'est moi qui
en
vous
plus,
appelle,
il est en
Frédéric.
Montage.
Il est en montage de votre film.
Ben oui, absolument. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Je vous embrasse et bonne fin de promenade.
Et trop merci.
Et je me suis rappelé vos origines italiennes, Sylvie Testu. Tout le monde les connaît, vu que vous êtes blonde aux yeux bleus. Vous appelez Sylvie Testu, tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose d'italien là derrière. Et pourtant, elle est napolitaine, c'est vrai.
Merci.
Voilà. Alors, on va écouter Senza Fine et Dornella Vanoni. Vous connaissez cette chanson?
Pas du tout.
Mais elle est magnifique. Vous allez voir, vous allez la reconnaître tout de suite.
Senza fine, tu trascini la vita, senza un attimo di respiro per sognare, fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Senza fine, chanté par Ornella Vanoni. On va vous laisser, James, merci de nous avoir rejoints sur le parcours. On va aller voir un autre réalisateur avec lequel elle a tourné. Elle ne vous l'a peut-être pas dit, mais parfois elle tourne avec d'autres réalisateurs.
Elle m'a menti alors.
Si peu, si peu.
Frédéric Taddeï, en balade avec Sylvie Testu sur Europe 1.
C'est à Saint-Germain-les-Prés que se termine la balade de Frédéric Taddeï et Sylvie Testu. Et la comédienne a voulu nous présenter une dernière personne pour l'occasion.
Eh bien, nous voilà, place de Fürstenberg, Sylvie Testu. Vous avez donné rendez-vous à Vincent Ravalek.
Et voilà.
Vincent Ravalek, bonjour Vincent.
Bonjour.
Écrivain, célèbre écrivain, cinéaste. Et vous venez de faire ensemble une première. Vous venez de faire le premier long métrage en réalité virtuelle.
Voilà.
Ben voilà, exactement. Ce qui était une petite aventure, il faut le dire.
Une énorme aventure pour un acteur, c'est incroyable.
Ouais. Bah pour un réalisateur aussi, parce que vous inventez quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une méthode, des repères que pour l'instant personne n'a, puisque personne n'a encore travaillé avec une caméra toute ronde qui filme tout, hein, 360 degrés. Donc il n'y a pas de hors-champ. Si
il
j'ai
sort
bien compris.
Du plateau.
Oui, bah c'est normal. C'est-à-dire qu'on enlève tous les techniciens, le réalisateur. Vous êtes obligé d'aller ailleurs, puisqu'il n'y a pas de hors-champ. Sinon, vous verrez dans l'image.
Non, mais c'est là où on apprécie d'avoir des très bons comédiens. Donc il y avait Sylvie, il y avait Denis Lavant. Avant. Et c'est vrai que c'est très important de le préciser parce qu'il n'y a pas de repère. Le comédien ne peut s'appuyer ni sur un public, ni sur l'œil de la caméra. Et le réalisateur n'est pas là pour envoyer une impulsion. Donc les acteurs, c'est eux qui font tout.
Ils sont tout seuls avec une petite caméra, toute ronde. Hein.
Et là, vraiment, on apprécie de travailler avec Sylvie. Quoi.
Mais merci. Mais en fait, le truc, c'est désorientant. Parce que, en fait, même si on se dit, ah, de toute façon, je suis dans la situation, la caméra, je l'oublie. En fait, on le sait qu'on la snob, en fait. Mais on a quand même un rapport à la caméra. Là, subitement, il ne peut pas y en avoir parce qu'on est de partout. Donc, on ne peut snober rien du tout. On ne maîtrise plus le temps non plus.
Il faut comprendre que c'est un film qu'on ne peut voir que dans un casque. On peut le voir en forme des images. Hein. On vous prête un casque. Et puis, une fois que vous avez mis le casque, bah, vous pouvez tourner autour de Sylvie Testu, si vous voulez. Vous regardez par terre, vous regardez le plafond.
Ou regardez l'autre, ou allez, s'approcher de la porte.
Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au fond, c'est le spectateur qui cadre.
C'est ça. Il cadre, il s'intéresse à ce à quoi il a envie de s'intéresser. Parce que cadrer, ça veut dire qu'on pousse la tête, le regard du spectateur sur un détail qu'on veut lui montrer. Là, il choisit. C'est lui qui choisit.
D'ailleurs,
de regarder
moi, j'ai eu la chance de voir ce film avec le casque, donc, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de le voir. Et quand on regarde bien, il y a des indices. Hein. Vous avez semé des indices ici et là. Si on a envie de regarder, bah, tiens, il y a quoi comme magazine dans la pièce, par exemple, on s'aperçoit que le magazine nous donne un indice.
Mais en fait, il y a tout un travail. Il y a une super direction artistique qui a été faite par la directrice artistique qui s'appelait Élise Morin, avec laquelle on a beaucoup travaillé. Et on est obligé d'intégrer l'espace d'une autre manière, et effectivement avec des indications, avec des indices, avec une atmosphère qui doit vraiment sortir de partout. C'est un rapport complètement différent à l'espace, mais au temps aussi. C'est vraiment typiquement l'espace-temps cinématographique.
On peut se balader dans le film comme on se balade dans un jeu vidéo sans s'intéresser à l'intrigue, en fait. Il y a le risque aussi.
Alors moi, je trouve que c'est plus comme quand on voyage. Quand on voyage, on regarde pas tous le trucs au même moment, quoi. On peut se promener, bah, voilà, on vient de faire une balade, vous vous tourniez la tête à droite, moi à gauche, on n'a pas fait la même balade, c'est sûr. Mais là, c'est pareil pour le film. Alors, le film, même si on l'interprète différemment, on voit les mêmes plans, on voit les mêmes détails au même moment, on a un même rythme. Là, on peut avoir un rythme différent.
Ça devait être drôle sur le tournage. Le film s'appelle Fan Club. Hein. Ça devait être drôle parce que vous deviez tous avoir la sensation de faire quelque chose pour la première fois, d'être un peu des pionniers.
Ah là, y avait une ferveur, enfin, c'était génial. Ouais, moi, j'ai un très bon souvenir du tournage. Aussi. Tout le monde était à fond, vraiment, du stagiaire aux machinaux, aux acteurs, à toi. Enfin, toute l'équipe était vraiment, c'était terrible. Ouais.
C'est fou ce que cette place de Fürstenberg est cinématographique. Hein. On l'a vu souvent dans des films. Avec ses très beaux arbres, japonais ou coréens, je ne sais plus, son beau réverbère au milieu. Il y avait l'atelier de Delacroix là-bas. Je ne sais pas le nombre de films qui ont été tournés ici. Vous n'avez jamais tourné ici
si, alors j'ai tourné ici bah, justement pour le film de Diane Curis.
Sur Sagan, Sagan.
Ouais. Bah, d'abord, elle est belle, mais surtout, le temps s'est arrêté sans être marqué à une époque. Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire « Ah là là, ça, c'était l'époque ». Mais là, je trouve qu'on... Finalement, il y a quand même de la liberté. Moi, j'aime bien cette place.
Vous avez fait la même chose dans ce film, d'ailleurs. On est incapable de le dater, Fan Club. Les costumes sont tellement extravagants, les coiffures sont délirantes.
Bah, c'est vrai qu'il y a un côté baroque, moi, que j'aime bien. Et bah, je voudrais revenir juste sur une chose, Frédéric, si ça ne vous ennuie pas, sur la narration. Parce que dans Fan Club, on a tout de même essayé quelque chose. C'est vrai que la réalité virtuelle, c'est tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est une immersion, c'est le spectateur qui cadre. Or là, il y a un parti pris qui est vraiment un parti pris expérimental. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Mais il y a tout de même un montage. On emmène tout de même le spectateur dans une direction avec une... On a essayé de...
Oui, il y a une histoire. Hein,
D'une part, il y a une histoire, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de tester une grammaire. Bon, avec le risque, évidemment, je ne suis pas certain, je vais bientôt avoir des retours des spectateurs, de savoir si elle fonctionne de bout en bout. Et si justement, ce n'est pas gênant d'interférer entre cette liberté qu'a le spectateur intrinsèquement dans la VR et là, tout de même, des
Mais de toute façon, l'ambiance sera là. Parce que cette ambiance là, lourde.
Ouais. Oui, c'est l'ambiance assez angoissante. C'est une personnalité qui se retrouve face à son fan club. Et c'est pas toujours marrant d'être face à son fan club.
Il l'invite, pas parce qu'il l'admire. En fait. Voilà, c'est ça. Et, enfin, en tout cas, ils l'ont admiré et il se trouve que un peu moins. Et du coup, cette ambiance angoissante qui raconte l'histoire, je pense que même si des détails, si le rythme est le leur, qui sera un rythme choisi, je pense que de toute façon, ça s'imposera. L'ambiance, elle s'impose, elle s'est imposée à nous quand on la jouait. Sinon, on y arrive, le spectateur qui a le produit fini, je pense qu'il y a.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on attendait ce premier long métrage en réalité virtuelle. On savait qu'il allait advenir, on ne savait pas quand ni par qui. J'aurais parié que ce serait un film porno, moi. En général, c'est toujours par le porno qu'on commence. Ah. Ben oui, même le cinéma, hein, c'est, au départ, on faisait surtout des pornos qui passaient dans les hôtels de passe. Et puis, quand j'ai vu que c'était avec vous, Sylvie Testu, j'ai été rassuré. J'ai vu que ce serait un film normal.
Tous mes espoirs se sont effondrés.
Vous n'y aviez pas pensé du tout, Vincent Ravalet?
Alors, j'avais pas pensé faire un film porno, mais effectivement, ça s'y prête. Hein. Je veux dire, ça s'y prête, mais même au Japon, ça a été plus loin. Il y a déjà des trucs avec des capteurs, il y a un espèce de mélange de trucs sensoriels et de réalité virtuelle. C'est évident que la réalité virtuelle va s'imposer dans le porno, c'est déjà fait.
Merci Sylvie Testu de nous avoir emmené en balade avec vous. Merci Vincent Ravalec d'avoir fait le premier film en réalité virtuelle avec Sylvie Testu. Je rappelle qu'on peut le voir au Forum des Images. Avec un casque, encore une fois, sans
casque. Oui, puis c'est une expérience dingue.
C'est une expérience, effectivement. Je remercie le musée Mayol, le Récamier. Je remercie Odile Bastien, Tabio, là où vous achetez vos chaussettes brodées, Sylvie Testu. Je remercie James Hutt. Et je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
À dimanche prochain, Frédéric. Et comme d'habitude, je vous rappelle bien sûr que cette balade peut être écouté sur europe1.fr. Restez avec nous dans quelques minutes, vous retrouvez Fabienne Lemoyle avec votre journal de la mi-journée. Et puis à 15h, ce sera Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet. Isabelle qui reçoit aujourd'hui l'actrice Julie Ferrier. Alors bonne journée avec Europe 1, il est midi 27.